les podcasts de Radio Vatican.
L'Afrique serait-elle devenue le centre des préoccupations des pays riches? La Banque mondiale a annoncé dimanche 19 mars l'investissement de 57 milliards de dollars dans les trois prochaines années en Afrique subsaharienne. 45 milliards de dollars viennent de l'Association internationale de développement, l'AID, l'agence de la Banque mondiale. Il s'agit de dons ou de prêts à taux zéro. 4 milliards de dollars proviennent également de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la filiale de la banque consacrée aux pays à revenus intermédiaires. Selon le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, cela représente une occasion unique de modifier la trajectoire du développement en Afrique subsaharienne. Ce sont les États qui décideront de l'utilisation de ces fonds. Mais 448 projets déjà en cours bénéficieront d'une partie de ces investissements. Stéphane Mblad, directeur pour les affaires internationales et multilatérales à la Banque mondiale à Washington, revient sur la manière dont ces fonds vont être utilisés et sur l'effet qu'ils auront sur les pays concernés.
Il y a une longue tradition et volonté chez les pays bailleurs de fonds de travailler pour éliminer la pauvreté extrême en Afrique. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est bien établi maintenant depuis plusieurs décennies. Je crois qu'au fil des années, il peut y avoir une priorité accrue ou moindre, mais il y a toujours un intérêt à aider ces pays à se développer et à faire face à des défis souvent énormes. Et dans un monde de plus en plus connecté, je crois qu'il y a aussi bien l'argument moral y est depuis longtemps. Maintenant, s'ajoute à ça le fait que des sources de fragilité et d'instabilité dans une partie du monde impactent le reste du monde et les développements des dernières années le prouvent d'une manière très concrète.
Concrètement, comment on va utiliser cet argent ?
Si on regarde la partie, donc la majeure partie, les 49 milliards qui vont être octroyés en forme de dons ou de prêts pour les gouvernements, ça, c'est vraiment aux pays emprunteurs de décider comment est-ce qu'on va les utiliser. Donc, on finance souvent des grands projets d'infrastructure, que ce soit des constructions de routes, des générateurs d'électricité, réhabilitation des ports, des choses comme ça. Mais on finance aussi des hôpitaux, des écoles, des réformes de la fonction publique. Donc c'est vraiment très hétérogène et c'est suivant les besoins identifiés dans les pays. Donc on a un processus où, ensemble avec le gouvernement et les autres partenaires de développement, que ce soit des multilatérales ou des bilatérales, on fait un diagnostic systématique du pays où on identifie les grands axes de développement, là où il y a des contraintes particulières, et puis après, sur la base de ce document, on regarde on appelle un country partnership framework, donc un cadre de partenariat avec le pays sur qu'est-ce que va être l'apport et qu'est-ce que va financer les prêts et les dons de l'AID et de la BIRD. Pour ce qui est du secteur privé, c'est des investissements qui sont souvent des investissements que les investisseurs privés normalement ne ferait pas parce que ou il trouve qu'il y a des risques trop grands ou que il y a besoin de réformes dans le secteur, par exemple, souvent c'est le cas dans le secteur de l'énergie, qu'il faut des changements de politique de tarification et autres, et donc ils veulent que le SFI, la Banque mondiale, appuie le gouvernement dans ces réformes-là pour que les investisseurs privés soient confortables à mettre leur argent aussi.
Le président de la Banque mondiale a déclaré que cette aide représentait une opportunité sans précédent pour changer la trajectoire du développement des pays de la région. En quoi cette trajectoire de développement pourrait changer grâce à cette aide?
Je crois que, premièrement, le fait qu'on pourra doubler les, les montants qu'on met à travers l'AID, ça fait que la Banque mondiale deviendra la source première de l'aide publique au développement pour le continent africain. Donc déjà ça nous donne une force de frappe qui fait le double de ce qu'on a pu faire préalablement. Je crois que c'est aussi le fait qu'il y a, même si c'est pas quelque chose dont on discute beaucoup maintenant en 2017, mais en 2015, il y a eu beaucoup d'objectifs communs qui ont été identifiés par la communauté internationale, que ce soit au niveau des objectifs durables de développement, que ce soit au COP21 de Paris. Tout ça, ça a emmené aussi que les pays ont fait des plans, des stratégies pour arriver à ces objectifs-là d'ici 2030. Et avec le volume de financement accru qu'on peut maintenant apporter, on peut vraiment mettre ces pays-là sur cette trajectoire-là d'atteindre ces objectifs en 2030.
Alors, ce n'est pas la première fois que la Banque mondiale prête de l'argent aux pays africains. Ça dure depuis les indépendances. Pourquoi on a l'impression que cette année en particulier, notamment dans le cadre du G20, il y a une telle attention envers les pays africains? Est-ce que c'est devenu, on va dire, une priorité pour les créditeurs?
Je crois que ça a toujours été une priorité dans le monde du développement. Donc, comme vous dites, c'est pas nouveau. Je crois qu'il y a peut-être une attention plus grande maintenant à ces questions-là. Et je crois aussi que, et ça c'est important de le dire, parce qu'il y a souvent dans les médias une image que l'Afrique n'avance pas, et la réalité est beaucoup plus mixte. Là où c'est vrai qu'on est en situation de famine ou presque famine dans 3-4 pays en Afrique subsaharienne, et on va probablement voir plus dans les médias là-dessus dans les semaines et les mois qui viennent, il y a aussi une partie de l'Afrique qui a des taux de croissance au-delà de 4,5, 5,5, voire 6% sur plusieurs années maintenant. Et ça fait qu'ils sont beaucoup plus prêts à accueillir des investissements privés. Et donc, si vous regardez au niveau du G20, les compacts avec l'Afrique que prône la présidence allemande sont vraiment focalisés sur comment augmenter sensiblement les investissements privés dans ces pays-là. Justement, utiliser l'APD encore plus de façon catalytique pour que les investisseurs privés se sentent confortables à investir et qu'on arrive à des échelles ou des ordres de magnitude beaucoup plus importants. Et je crois que c'est cette sensation qu'il y a une opportunité là pour le faire, en même temps qu'il y a une sensibilité accrue sur le défi démographique en créant des emplois et que les gens ils ont des perspectives pour le futur, qui fait que les sources d'instabilité qui peuvent y avoir dans la région ne grandissent pas.
Un entretien réalisé par Xavier Sartre.